Et je vous invite à ouvrir la Bible dans l'Évangile de Jean, chapitre 5. Jean, chapitre 5, et les 16 premiers versets, et je lirai dans la version second 1910. Vous verrez qu'il y a quelques changements, et dans certaines versions, vous n'avez pas le verset 4, qui, dans certains manuscrits, n'existe pas. Ça ne change rien à nos textes. Jean, chapitre 5, verset 1. « Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, et qui a cinq portiques. Sous ce portique étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, et il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Et lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, « Prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Prions. Père, encore une fois, nous te rendons grâce pour cette transmission de la parole de ta parole qui est arrivée jusqu'à nous. Te remercions pour ces versions, te remercions pour ces textes. Te demandons d'ouvrir nos yeux, mais aussi notre esprit. Les yeux de notre esprit, les yeux de notre cœur, pour discerner ton message, ce que tu as à nous dire aujourd'hui et qui va nous faire encore grandir. Seigneur, encore une fois, béni sois-tu et merci. Gloire à toi. Amen. Si vous vous souvenez, le temps passe vite. Début septembre, je vais vous partager un survol de la vie de Joseph. Joseph dont la vie a basculé du jour au lendemain pour être travaillé par Dieu jusqu'à ses 30 ans. Avant de devenir quelqu'un de très imposant, le second en Égypte. Et je disais, 30 ans et déjà une vie passée dans la souffrance. Déjà 30 ans et peu de souvenirs de liberté. 30 ans, orphelin de mère, séparé de son père et rejeté par ses frères. 30 ans en l'air, si on peut dire. Mais combien ça a été bénéfique pour l'œuvre de Dieu. Dans le récit de notre méditation aujourd'hui, vous avez remarqué, le temps il est plus long. Il nous est dit qu'il y avait un homme infirme de 38 ans. Pour Dieu, c'est pas grand-chose, mais pour nous, 38 années, 38 ans d'attente. Et pendant notre périple vacancier, on a eu l'occasion d'aller visiter la tour de Constance, où a été enfermée Marie Durand, également, étonnamment peut-être, pendant 38 ans. La raison est qu'elle n'a pas voulu renier sa foi protestante, et elle n'avait qu'un mot à dire. Et elle était libre. Elle reniait Jésus, elle reniait sa foi, et elle était libre. Par contre, notre paralytique, lui, n'avait qu'un pas à faire, sauter dans la piscine quand c'était le bon moment, et il était guéri. Le hic, c'est qu'il était handicapé. Le même temps de ces deux personnes, mais deux manières différentes de s'en sortir. Deux manières d'être libérée. Marie Durand connaissait Jésus, connaissait son Sauveur. Elle savait qu'elle se perdrait si elle le reniait. Elle n'avait qu'une idée en tête, résister. Et c'est ce qu'elle a gravé sur le bord du trou d'aération, résister. 38 ans, elle a eu le temps de le faire avec les ongles, mais vous imaginez, 38 ans. Le paralytique, lui, ne connaissait pas Jésus et espérait de l'aide pour un miracle. Deux vies différentes, mais deux témoignages très intéressants et poignants pour notre foi. Dans mon message sur Joseph, rappelez-vous, vous ne vous rappelez pas, je vous le rappelle, je vous posais ces questions. Que faisiez-vous à vos 30 ans? Qu'aviez-vous déjà vécu? Et quels souvenirs aviez-vous à 30 ans? Qu'est-ce que je faisais à ce moment-là? Marie Durand n'a que 19 ans quand elle est emprisonnée. Son frère Pierre, lui aussi, sera emprisonné et puis il sera pendu. Il n'avait que 30 ans. Des vies massacrées, mais ô combien déjà remplies de foi. Marie et le paralytique vont vivre 38 ans de leur vie à ne rien faire. Rien. Ils sont bloqués. Dans une prison faite de murs un peu plus grands qu'ici, ou une prison faite de chair inerte, il n'y a rien à faire. Sinon, que prier ? Certainement que Marie Durand priait. Quant à notre ami paralysé, le texte ne nous dit rien. Sinon qu'il était dans un endroit où il y avait une possibilité de guérison. Il priait peut-être pas, mais il avait une possibilité. Il avait été là. Comment il est arrivé, on ne sait pas. Je vous signale que Bethesda signifie « maison de miséricorde » ou encore « maison de grâce » dans certains autres commentaires. C'est une sorte, pour moi j'ai appelé ça une sorte d'hôpital à l'époque, mais sans médecin ni infirmière, juste un ange qui passe de temps à autre. Je vous disais que dans certaines versions, le verset 4 n'était pas là, on n'explique pas comment l'eau est agitée dans d'autres versions. Et dans la liste des nombreux malades, boiteux, aveugles et autres, c'est quand même le paralytique qui a le moins de chances d'y arriver. Bon, on est aveugle, on a quand même encore deux jambes, on peut quand même essayer de tomber dans l'eau au bon moment. Donc il a peu de chances d'y arriver. Mais dans cette ambiance de souffrance, Jésus remarque quelqu'un, justement ce paralytique. Un seul. Vous remarquerez que Jésus n'a pas pris toute la misère du monde. Il n'a pas pris toute la misère de Bethesda. Il n'a pris un seul. Un seul. Certainement qu'il les a tous vus. Mais c'est auprès de ce paraplégique de longue durée que Jésus s'arrête. Excusez-moi l'expression. Il lui pose une question idiote. Pardonnez-moi. Mais veux-tu être guéri? T'es là, tu ne sais pas bouger. Quelqu'un vient dire, veux-tu être guéri? Je suis dans un fauteuil roulant, quelqu'un me demande si je veux marcher. C'est évident que je veux sauter de joie, c'est logique que je veuille courir. C'est évident que pour nous, du moins pour nous, que le paralytique veut être guéri. Peut-être que lui n'a pas envie, ça, c'est pas dit. Mais c'est évident. De plus, le verset 10 nous donne des détails sur l'attitude de Jésus. Jésus, l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Jésus connaît son état. Il sait qu'il est là depuis longtemps. Pourquoi, sincèrement, il lui pose cette question « Veux-tu être guéri ?» Mais fais-le directement. Non. De même que la médecine moderne ne peut soigner ou ne veut soigner de force, Jésus et Dieu, par la même occasion, ne fait rien sans notre accord. Il veut notre volonté. Veux-tu être guéri? Il nous veut partenaire de notre guérison ou de nos actions. Qu'avons-nous été pendant 38 ans? C'est plus la même question. Qu'est-ce que je faisais à 30 ans? Ou qu'est-ce que je faisais? Ou qu'est-ce que j'ai fait depuis les 38 années passées? Et si Jésus débarquait dans notre église et nous demandait « Veux-tu être guéri ?» Jésus, Qu'est-ce qu'on lui donnerait comme réponse? Peut-être que c'est déjà fait. Peut-être que pas. Pas besoin de guérison, je ne suis pas malade ni handicapé. Mais si je compare l'église à la piscine de Bethesda, c'est parce que souvent, nos communautés ressemblent de plus en plus à cet endroit où l'on espère la guérison. La guérison de nos problèmes physiques ou sociaux. L'espoir d'un ange qui passe. L'espoir du miracle. On espère, peut-être parfois, sans trop y croire, peut-être, après 38 ans. La lassitude et le découragement ont fait leur lit. Et le lit est essentiel pour le sommeil. Veux-tu être guéri? La réponse de notre ami est tout aussi terre à terre. Ni oui, ni non. Mais il a une excuse de ne pas y arriver lui-même. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Dans cette église Bethesda, je le répète, qui signifie « maison de miséricorde », il n'y a pas de miséricorde entre les malades. C'est chacun pour soi. C'est le moins handicapé qui gagne la course. Tout seul, chacun pour soi. C'est peut-être le dernier arrivé qui sera libéré le premier. Nous sommes loin de ce paralytique descendu, souvenez, où les quatre amis démontent le toit et descendent le paralytique pour Jésus. Pas de solidarité à Bethesda, pas de pitié, du moins pour notre paralysé. Nous ne savons pas comment il en est arrivé là, mais les causes de son handicap ont peut-être choqué les autres. Il a peut-être été repoussé. Peut-être que vous avez vu ce film « Patient ». Il y a quelques jours, il passait à la télévision, ce film qui retraçait la vie du chanteur « Grand corps malade ». Jamais compris pourquoi il s'appelait comme ça, mais je l'ai compris en regardant le film, qui, suite à un mauvais plongeon dans une piscine ou dans une rivière, je ne sais plus, il se casse la colonne et est 3 mois dans le coma. Et suite, après, bon, il y a la rééducation et il deviendra le rappeur que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas. Et il se retrouve dans cet institut de revalidation avec d'autres éclopés de la vie. Il a alors 20 ans. Et avec lui, il y a une jeune fille qui, elle, a tenté de se suicider en voiture. Elle a raté son suicide, mais elle est restée handicapée. Et un autre, un truand, qui a pris une balle de revolver qui lui a sectionné la colonne vertébrale. 3 causes différentes, voulues ou non, qui mènent à un même état, à un même endroit. Les aléas de la vie nous conduisent parfois à nous retrouver et à côtoyer d'autres qui ont du passé négatif, parfois rébarbatif, et qui nous ferment, qui nous rebutent, qu'on n'a pas envie de côtoyer. Un truand, car c'est une balle, ce qu'on va raconter à ce mec-là. C'est peut-être ce qui s'est passé pour notre paralytique, qu'on ne veut pas aider. Certainement qu'il a été mis de côté. Mais, quoi qu'il en soit, Jésus, lui, repère son problème, et avec lui, il va le résoudre. Imaginez que le paralytique aurait dit « Non, je ne veux pas ». Je ne sais pas ce que Jésus aurait fait. Mais bon, on n'en est pas là. Je vous signale quand même que le Seigneur ne lui a pas demandé d'aller au temple, d'être baptisé, de parler en langue ou d'exécuter un acte payant ou pas. Rien de tout ça. Simplement le vouloir. Veux-tu être guéri? Quel est notre souci depuis 38 ans peut-être? Oh, j'en ai pas. Ok. Veux-tu être guéri? Toute conversion commence généralement par la libération d'un problème physique, moral, psychique ou même spirituel. Tout changement est généralement entamé par un intérêt. Il ne faut pas l'intérêt du changement si on n'a pas un intérêt. Jésus le sait et nous connaît. Mais à ce stade de la décomposition de notre texte, le paralytique ne connaît pas son médecin ou son guérisseur. Appelez Jésus comme vous voulez. À ce niveau-là, il ne le connaît pas. Jésus est peut-être le sauveur de son corps, mais pas vraiment celui de son âme. Et avant d'aborder le sujet de son salut, notre paralytique guéri devra, hélas, encore affronter un autre handicap, celui de la tradition. La tradition et le légalisme extrême qui, entre parenthèses, peut toucher toutes les couches de la société, toutes les théologies, toutes les cultures, comme toutes les religions. Relisons le texte, verset 8, chapitre 5. « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Aussitôt, pas de souci. Il prit son lit et marcha. Verset 10. « C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, « Prends ton lit et marche. » À peine guéri, il se fait interpeller par les religieux de l'époque, « Tu ne peux pas. Tu ne peux pas te balader comme ça, n'importe comment. Tu dois. » Combien de jeunes convertis ont été confrontés à ce genre de situation? Combien des guéris de Jésus ont été traumatisés par les excès religieux ou par des chrétiens eux-mêmes qui interprètent des versets tirés de leur contexte et parfois extrapolés? Est-ce que la parole de Dieu dit vraiment ça? Et notre paralytique guéri, qui tombe des nues, lui, qu'est-ce qui se passe? Il n'a qu'une seule excuse. Celui qui m'a guéri m'a dit que. On m'a dit que. À sa décharge, il n'a plus le temps de vérifier qui est Jésus. Il a été agressé directement. Au début d'une conversion, il est normal de connaître ce genre de réponse. Mais après quelques années d'église, chaque chrétien convaincu ne devrait avoir qu'une seule réponse lors de ce type d'interrogatoire. La parole de Dieu dit que. Pas on m'a dit que. La personne que je ne connais pas m'a dit que. Vous remarquerez que l'évangéliste Jean insiste sur une phrase qu'il répète trois fois. Prends ton lit et marche. Je me suis dit, un lit c'est fait pour s'étendre, pour se reposer, pour dormir. Dans notre récit, le fait de le prendre, prouve que le malade n'est plus malade. Il sait porter son lit. Personne n'aurait remarqué sa guérison si notre ami avait quitté discrètement la piscine incognito. Ouh, c'est le sabbat aujourd'hui. Je ne peux rien faire. On n'aurait rien remarqué. Quelle leçon doit-on tirer pour nous de cela? On doit voir que Jésus a changé quelque chose dans nos vies. On doit voir que nous sommes guéris. On doit voir que nous sommes convertis. Vous allez me dire, on va se balader à vue, avec le lit entre les bras. Non. Mais on doit faire la différence. Les gens extérieurs doivent voir. L'entourage, l'église, le religieux, le monde doivent voir quelque chose de changé dans notre vie. Prends ton lit et marche. Il nous faut sortir de ce qui nous emprisonne pendant des années. Sortir de notre lit. Voici ce que déclare Paul dans l'Épître aux Romains, Romains chapitre 13, verset 11. Ce que la parole de Dieu dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut est plus près de nous. Et je pense que le retour du Seigneur est encore plus près. Poursuivons notre lecture au verset 14. « Depuis, Jésus le trouva dans le temple. » Quelle belle initiative. Voici notre homme avec son lit sous le bras, arrivé au temple le jour du sabbat. Quel scandale. Certainement pour trouver une explication à ce qui lui est arrivé, ou mieux encore pour rendre gloire à Dieu. Imaginez la scène se produisant aujourd'hui. Et là, qui est là? Jésus. Jésus le trouva. On ne dit pas que c'est le contraire. Jésus trouva notre ami dans le temple. Même au temple, Jésus nous cherche. Et là, Jésus va s'occuper de son âme. Verset 13, voici, tu as été guéri. Donc ton corps, ça va. Ton âme ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Jésus, en prononçant cette phrase, le met devant ses responsabilités. Ton péché t'a conduit à être bloqué pendant 38 ans. En te guérissant, je t'ai libéré de ses conséquences. Je signale au passage qu'il ne faut pas voir un péché devant chaque maladie. Grand corps malade, ou pour ceux qui ont connu le film Johnny, rien dans leur état ne peut prouver que c'est suite à un péché. C'est simplement la vie. Par contre, le truand qui se prend une balle, ou la fille qui cherche à mourir, à nous de juger ou pas. Je reviens donc à ce que je disais, ne pêche plus. Ne pêche plus. Nous retrouvons la même expression dans le récit de la femme prise en adultère dans Jean 8, 11. Va et ne pêche plus. Dans la suite, Jésus remet une couche. Le verset ne s'arrête pas. Va et ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Le péché et ses conséquences. Jésus lui dit « Stop, tu as été guéri, libéré, pardonné, en avant-marche maintenant. » Alors nous aussi, en avant-marche. Quelle conclusion pour nous ? Qu'est-ce qui m'a bloqué pendant tant d'années ? Peut-être encore aujourd'hui. Me suis-je fait écraser par une tradition. On m'a dit que. Ai-je accepté ma guérison ? Ai-je voulu en sortir de mon handicap ? Et si derrière ce qui me coince, il restait un morceau de mon passé pécheur ? Peut-être. Et si Jésus nous redisait : veux-tu être guéri ? Prends ton lit et marche. Va et ne pêche plus. Les temps sont mauvais. Notre entourage doit voir qu'il y a quelque chose de changé. Grâce à la grâce de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons nous mettre devant toi parce que ce texte est interpellant, secouant. Mais nous voulons te faire confiance parce que quand tu entreprends quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Seigneur, poursuis l'œuvre que tu as faite en moi, en nous, en mes frères, en cette Église, en l'Église universelle. Nous pouvons croire que tu iras jusqu'au bout de tes promesses. Amen.